Bonjour, nous sommes le lundi 26 février 2018, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 14h, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est 30 minutes pour mettre en lumière les nouveaux talents ou les nouvelles idées. Un lundi sur deux sur Radio Campus Paris, on vous l'a déjà dit. Aujourd'hui, on va jouer avec les mots et rire avec eux. Bonjour Mickaël Hirsch.
Bonjour Campus.
Bonjour Paris.
Paris.
Vous êtes humoriste, comédien. On vous retrouve actuellement du mercredi au samedi à 20h30 au studio des Champs-Élysées dans Pourquoi, c'est le titre d'un spectacle que vous avez écrit. Puisque vous aimez les pourquoi nos auditeurs devraient-ils aller vous voir ?
Eh ben pourquoi pas, d'abord, pourquoi pas. Pourquoi ? Eh ben parce qu'on passe un bon moment pendant ce spectacle. Autant les spectateurs que moi, là, j'y suis depuis le 1er février et chaque soir est un vrai bonheur. Pourquoi ? Ça raconte l'histoire d'un personnage qu'on suit de petit garçon à grand-père et qui, toute sa vie durant, se pose plein de questions sur le monde qui l'entoure. Chaque question, c'est l'occasion d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure qui lui arrive. Et un peu comme dans la vie, parfois dans ces aventures, on trouve les réponses et puis parfois pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant.
Vous en êtes déjà à la 300e là bientôt.
Ouais.
Est-ce qu'au bout de 300 spectacles, on commence à être lassé ou au contraire, on est plus que jamais excité à voir comment il évolue, comment le public ne réagit jamais pareil ?
Non, j'éprouve absolument aucune lassitude par rapport au spectacle et au contraire, j'y prends de plus en plus de plaisir. C'est amusant parce que on a en Occident une aversion pour la répétition et un besoin de nouveauté permanent. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'Orient pour ça. Je prends le cas du tir à l'arc japonais. On ne s'y attendait pas. Là, on est lundi, 14h, tranquillement assis chez soi et on parle tir à l'arc japonais. Non, dans le tir à l'arc japonais, par exemple, c'est l'art de la répétition, l'art du beau geste, de refaire toujours le même geste.
Du geste.
Et tous les gens qui nous écoutent, et la plupart des jeunes qui doivent nous écouter en ce moment, ont fait du sport et ils connaissent cette mécanique du geste répété. Moi, je trouve ça magnifique de se dire que je dois répéter le même geste. Les gens qui sont devant moi, le public, c'est la première et la dernière fois qu'ils voient probablement ce spectacle. Alors, l'enjeu est colossal. Et puis, je prends beaucoup de plaisir parce que, comme le disait Sacha Guitry, chaque soir, quand on est sur scène, c'est comme quand on est sur une plage et on voit une nouvelle vague arriver. Et il n'y a pas deux vagues qui se ressemblent, ça c'est la réalité. Donc chaque soir, c'est à moi de faire que cette rencontre avec les spectateurs se passe pour le mieux. C'est un petit peu comme une date Tinder, en quelque sorte. À chaque fois, c'est un peu différent. Et on a envie de trouver la bonne manière de passer le meilleur moment possible ensemble.
Alors, vous, dans votre spectacle, vous adorez jouer avec les mots, vous créez des carambolages de sens. Comment naît l'idée d'un sketch ? C'est d'abord par le mot, par la sonorité ? Ou c'est d'abord une idée de situation ?
Ça peut être les deux. J'avoue que la plupart du temps, j'essaye de me méfier quand ça vient uniquement du jeu de mots. C'est-à-dire, si ça vient du jeu de mots, je peux me laisser embarquer par les mots parce que comme effectivement, j'adore ça. Y a des fois où effectivement, les mots ont tendance à se jouer de moi. Donc, j'essaye de me dire, tiens, de quoi j'ai envie de parler ? Sur cette thématique-là, qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Par exemple, il y a un sketch dans le spectacle qui s'appelle « Pourquoi perdre son temps à essayer de gagner sa vie ?» Et c'est une question, c'est une sacrée question. Et puis à l'époque où j'étais étudiant, c'est une question que je me posais beaucoup. Aujourd'hui, je continue évidemment à pas trouver la réponse. Mais ça, j'avais envie d'en parler. J'avais envie de parler de notre rapport au travail, de notre rapport aussi évidemment à l'argent. Donc c'est ça par exemple qui m'a guidé sur l'écriture de ce sketch. Et puis après, ce qui est génial, c'est de mettre les mots en relation les uns avec les autres. Et puis des fois, il y a un moment magique quand on écrit, qui est le moment le plus agréable où les mots jouent entre eux. Et à ce moment-là, c'est formidable parce que on devient spectateur plutôt que créateur et on a le droit à un moment totalement privilégié. C'est un moment que je vis moi seul et les mots jouent pour moi.
Ouais. On va écouter la bande-annonce de votre spectacle pour donner une petite idée.
Oyez, 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 oyez. Quand on est petit, on rêve, on fait des pleins sur la comète et quand on est grand, il paraît qu'on rêve de faire des plans à trois. Pourquoi être comme tout le monde? Je veux dire, il y a déjà plein de monde comme tout le monde. Et pourquoi il y a plusieurs religions mais il n'y a qu'un seul Dieu? Non, il y a plusieurs dieux. Ah bon? Et ils sont copains? Ouais. Pourquoi dire amène à tout alors que la société amène à rien? Je peux te donner mon avis, mais j'en change souvent. J'ai que des avis de passage. Pourquoi vivre debout? Couché, on passe son temps la tête dans les étoiles. Debout, on doit garder la tête sur les épaules, mais le plus souvent, on a la tête dans le cul. Tu sais, aujourd'hui, papa, avec Internet, c'est devenu la guerre des étoiles. Tu sais jamais à l'avance si tu vas rencontrer Princesse Leia ou Chewbacca. Mais c'est bon, ça va, je vais choisir. Voilà, je vais choisir. Je ferai campagne dans le Jura. Je serai élu à Menton et je finirai président de la République. À Pantin. Qui sème le vent, récolte la tempête. Alors je me suis dit, c'est ça, on va semer. On va semer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, on va semer.
On vient de vous écouter là, Michael Hirsch, j'allais vous appeler Michael, pardon. C'est pas grave.
Allons-y, soyons. Assumons cette part d'américanisme qu'il y a en nous.
Par rapport à ce que vous disiez avant, quand vous réécoutez, c'est plutôt le moment de l'écriture dont vous vous souvenez ou des moments de spectacle?
Ah non, c'est les moments de spectacle.
C'est ce qui se passe à ce moment-là? Il y a quelque chose de tellement fort dans le rapport au public?
Ah ouais. C'est incroyable d'intensité. Hein. J'ai plein de souvenirs de spectacles. Et puis quand j'entends cette musique, j'adore cette musique.
Qui l'a composée, si on peut...
C'est Laurent Aquenin, qui est compositeur de musique pour le cinéma, pour le théâtre, qui est un type formidable, qui travaille beaucoup avec mon metteur en scène, Yvan Calberac, qui est aussi le co-auteur du spectacle. Et j'adore parce qu'il a réussi à mettre en musique une sorte de ritournelle de vie, qui est ce que j'avais envie de dessiner avec ce spectacle, avec cette vie, la vie d'un homme.
Alors justement, vous vous écrivez, j'imagine, à la base des sketchs. Comment on passe de l'idée de faire des sketchs, vous auriez pu faire des, comme tout le monde, comme beaucoup en tout cas, des sketchs disjoints qui parlent chacun d'une histoire différente. Pourquoi ce fil rouge? Qu'est-ce qui vous a donné envie? À quel moment c'est né cette envie?
Alors, il y a eu deux choses différentes. La première, c'est que c'est ce dont j'avais envie, moi, en tant que spectateur. Je regarde beaucoup d'humour depuis que je suis tout petit. Et ce qui me manquait, c'était qu'on me raconte des histoires. Les plus belles émotions que j'ai vécues, moi, dans des théâtres, c'est quand on m'amène en dehors de mon quotidien, quand il y a de la fantaisie, quand il y a de la poésie, quand il y a de la tendresse.
Il n'y a pas que ça dans votre spectacle, on y reviendra tout à l'heure, mais la critique sociale assez...
Oui, absolument.
Assez forte, quand même.
Oui, oui, oui. Ah oui, non, complètement. Mais disons qu'en fait, je trouve ça tellement fort d'emmener ailleurs pour parler de nous, en fait. C'est évidemment le pouvoir de la fiction. Et puis j'ai commencé par écrire des sketchs, par écrire des textes, sans me poser la question de savoir quel était le lien entre eux. Et le lien entre eux, quand un jour il s'est agi de les mettre côte à côte, bah c'était le questionnement, c'était le pourquoi. Le pourquoi a ce pouvoir merveilleux de nous entraîner vers la fiction, d'être une porte ouverte comme ça, vers un monde imaginaire, mais aussi justement de dénoncer l'absurdité de notre monde. Et je crois qu'en fait ce spectacle, alors j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, mais je crois que j'ai mis une trentaine d'années en fait à le mûrir ce spectacle.
Vous savez, je crois que Picasso disait quelque chose comme ça quand on lui demandait à la fin de sa vie combien de temps il avait mis pour peindre un tableau, il disait 90 ans.
Ah ouais,
ou peut-être moins, je sais pas quel âge il est mort, mais c'est cette idée là quoi, c'est tout.
Ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ce spectacle en fait. La révélation du pourquoi, quand je les ai mis côte à côte, de me dire « Ah oui, bah c'est peut-être le sens de ma vie, de me poser la question du sens de la vie, et c'est la vie de ce personnage-là. »
Alors là, on est dans le pourquoi, dans le sens de la vie, mais vous êtes aussi un redoutable imitateur. Vous imitez un moment Fabrice Luchini, je dois dire, pour le plus grand plaisir de la salle. Vous avez d'autres imitations, c'est la seule, et pourquoi Luchini?
Ah, pourquoi Luchini? Parce que j'ai une passion pour cet homme, il est formidable, il est incroyable, il a une énergie, une passion débordante, il nous fait aimer la langue française, c'est un passeur merveilleux de grands textes qui sont difficiles à appréhender et qui sont des textes qui méritent d'avoir une dimension charnelle parce que quand ils ont été écrits, il y avait cette dimension charnelle et le rôle de l'acteur, c'est justement de faire retrouver, enfin de redonner ça au public. J'ai d'autres imitations, mais en fait, je me suis dit à un moment, est-ce que je rajoute d'autres imitations dans le spectacle ou alors est-ce que je conserve juste celle-ci et j'ai conservé juste celle-ci parce que je me suis dit tiens en tant qu'auteur, j'ai une chance, c'est de pouvoir choisir qui, et puis auteur de seul en scène, c'est de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille sur scène, c'est-à-dire mes compagnons de scène, mes personnages. Et je me suis dit, tiens, je ne mettrai sur scène que des gens que j'aime et que j'admire, et donc j'ai pas envie d'imiter quelqu'un que j'aime pas.
Parce qu'on m'a demandé de faire un discours, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien égale rien, trois multiplié par trois égale neuf, ça fait rien de neuf.
Voilà, c'était Raymond Devos dans un sketch qui s'appelle « Parler pour ne rien dire ». Je dois avouer que pendant qu'on le diffusait, je vous regardais. Alors, un, vous le connaissez par cœur, et deux, vous aviez l'air fasciné. Il y a une espèce d'admiration qu'on voit dans vos yeux. Ouais, vous avez les yeux qui brillent d'une intensité particulière. Alors, quel est votre rapport à Raymond Devos?
C'est un rapport très apaisé. Ça m'a mis des années de psychanalyse pour arriver à ce rapport-là. Mais non, pas du tout. Quel rapport? J'ai un rapport d'admiration infini. Quel homme? Quel travail, quel bonheur de l'écouter. C'est amusant quand même de voir que ces derniers temps, à chaque fois qu'on me parle de Raymond Devos en interview, on me sort le sketch de parler pour ne rien dire.
Ah bon, c'est bizarre.
C'est fou, hein. Et c'était pas du tout le cas il y a un ou deux ans. Alors, de deux choses l'une, soit on essaye de me faire passer un message, c'est une possibilité.
Je crois pas. C'est parce qu'il parle de la parole et qu'il parle des mots, justement.
Non, mais bien sûr. Non, mais je crois aussi qu'on touche du doigt un phénomène de société qui est le bruit ambiant. Ce besoin de tout le temps parler, de meubler, de ne pas accepter le silence et d'avoir envie que tout soit commenté en permanence. Et du coup, se parler pour ne rien dire, eh ben, nous parle tellement de tous ceux qui parlent pour ne rien dire. C'est fantastique. C'est fantastique de se dire que... Alors, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais je pense que ce texte a dû être écrit dans les années 80. Mmh. Et c'est fou ce que ça nous parle. Raymond Devos, il a ce qu'ont ces grands artistes comme Sampé.
Comme... Là, vous parlez au président du fan club international de Sampé.
Ah ouais. Ah mais c'est Sampé.
Si quelqu'un devait avoir le prix Nobel de littérature, c'est lui et personne d'autre.
Ah non mais alors Sampé, c'est merveilleux. On se plonge dans un Sampé et on est rechargé pour plusieurs générations. Là, on est remonté comme un coucou. C'est merveilleux. D'humanité, tendresse, sans paix, c'est merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, on n'en parle pas plus. Mais bref, donc, de sans paix, de Brassens, pour moi, c'est cette dimension-là. C'est ces gens qui
sont
nos classiques.
Vous l'avez connu comment, Devos? Parce que c'est peut-être un classique, mais
la
vous
n'avez
pas du tout l'âge pour l'avoir vu en scène.
Non, je ne l'ai pas vu en scène. Je ne l'ai jamais rencontré. Et je commence à rencontrer de plus en plus de gens qui, eux, l'ont connu. Et du coup, je le rencontre un peu par l'intermédiaire de ceux qui l'ont connu, ses amis proches notamment. Et je me sens une proximité avec Raymond Devos, c'est incroyable. Alors que je ne l'ai jamais rencontré. Mais tout ça avec énormément de modestie. Hein. Quand je dis je me sens une proximité avec Raymond Devos, c'est simplement qu'en fait, il m'a donné l'amour des mots. Et pour vous dire la vérité, le jour où j'ai découvert Raymond Devos, j'étais un super mauvais élève en français. Je détestais ça. L'orthographe, c'était mon pire ennemi. J'étais nul en dictée. Et j'ai réalisé à quel point la langue française pouvait être un terrain de jeu merveilleux, chose qu'on oublie beaucoup trop. Voilà. Parce que s'amuser avec les mots, retrouver le plaisir de la langue, c'est une chose qui, pour moi, est essentielle. Si on partage les mêmes mots et les mêmes nuances de pensée, il y a de fortes chances qu'on arrivera mieux à se comprendre et à s'aimer.
quand on vous compare à lui, ce qui est le cas de beaucoup de critiques, vous le vivez comment ?
Alors,
vous êtes flatté ?
Ça a été un mélange. Je suis passé par tous les états. J'ai été très flatté, après j'ai eu très peur, ou peut-être dans le sens inverse, en me disant mais quelle idée de me comparer à Raymond DeVos. Aujourd'hui, je le vis de manière assez apaisée. Notre cerveau fonctionne par comparaison. On a besoin de ça, on est comme ça. Alors, j'en suis très honoré, parce que c'est quelqu'un que j'admire profondément. Après, je ne revendique aucun héritage et encore moins...
Par les temps qui courent, ne parlons pas d'héritage, s'il vous plaît.
Oui, absolument. Absolument. Vous avez raison.
Plus, je crois qu'il était belge, il vivait en Belgique, donc...
Oui, non, il vivait en France.
Il vivait en France,
ouais, il vivait en France.
Mais il était belge.
Mais d'ailleurs, il y a un très beau musée qui a été ouvert là où il vit, en région parisienne, qui a été ouvert par la Fondation Raymond DeVos. Et c'est merveilleux de se balader comme ça dans l'antre du maître. Et
on
de
vous
voir,
compare aussi à lui parce que vous êtes aujourd'hui sur la scène des jeunes comiques, un des rares à utiliser ce type d'humour-là, qui est l'humour sur les mots,
ouais.
Qui est un peu un humour parfois critiqué. Comment vous avez jamais posé la question ?
Mais moi, c'est ce qui me... D'abord, moi, j'ai écrit ce qui, moi, me faisait rire. Voilà. Je revendique pas le fait que ça fasse rire tout le monde. Il s'avère que ce spectacle, je l'ai joué 300 fois et que je me rends compte que même si c'est critiqué... Et même si on se dit que le jeu de mots est passé de mode, il y a plein de gens
qui s'en parlent. Mana tous ces trucs-là, on va dire.
Bien sûr. Mais en fait,
soyons clairs.
Non, mais enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que en fait, je rencontre tous les soirs des gens qui adorent ça, en fait, et qui sont pas que les tontons relous du dimanche midi, du repas du dimanche midi, qui font des jeux de mots qui tombent à plat. C'est pas le public n'est pas ça. Et puis le spectacle, il y a du jeu de mots, mais toujours du jeu de mots au service de quelque chose. C'est pour réveiller quelque chose dans notre esprit, ouais. La collusion de deux univers.
Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le jeu de mots aujourd'hui, on le retrouve notamment dans la musique.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. A chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches, analyse ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone. Appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres. Pour devenir celui qui gambade dans l'herbe, je lève la main gauche et déclare avec verve être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan clux clux. Sois, viens à moi, tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi et regarde vers le bas.
Agenouille-toi et regarde vers le bas.
Vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant ma pose tend comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps jeune, fun. Je brille comme un gun neuf. J'ai du sang neuf, je veux 1000 meufs. Plus 1000 potes de banque en KL buff. Le tout si possible arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. La balle à vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, autour de l'érection de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire. Le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme.
Vers le sonotone.
J'aurais voulu te dire que je m'en vais. J'aurais voulu
te dire. Je vous parle un peu du titre. Hein.
Le Figaro, on est persuadé, c'est du rap. Pour Télérama, c'est de la poésie. Pour nous, c'est de la chanson. MC Solar, Sonotone. Vous écoutez toujours La Relève et nous sommes toujours avec Michael ou Michael Hirsch. Bonsoir.
Bonjour.
Vous aimeriez écrire des chansons ? On vient d'écouter MC Solar qui, alors, pour le coup, joue avec les mots. Stromae le fait, Aurel San le fait. Ça vous dirait ? Vous avez été contacté pour ça ?
Oui, on commence à me contacter pour ça. J'ai plusieurs artistes interprètes qui sont venus voir le spectacle. Et du coup, j'y réfléchis, j'y pense beaucoup. C'est une mécanique un tout petit peu différente que ce que je fais. Ça répond à une métrique bien précise. Et du coup, je suis en train d'apprendre, de regarder, d'étudier, de lire beaucoup. Et j'adorerais, ouais.
Quand on est comme vous, obsédé par les mots, vous avez expliqué que c'était quelque chose qui était né pendant votre scolarité, en écoutant notamment Raymond Devos. Est-ce que vous pouvez écouter une conversation sans entendre tous les doubles sens?
Bien sûr que non.
J'ai l'impression que vous vivez un enfer, en fait.
Ah non, pas du tout, c'est génial. Ça joue tout seul dans ma tête. Voilà. Donc, la plupart des gens qui sont adeptes de jeux de mots fonctionnent comme ça, à vouloir poser la question. En fait, en permanence, il y a des mots qui jouent dans leur tête. C'est comme ça. Et moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Alors, comme disait Pierre Dac, si vous voulez, on trouve son plaisir là où on le prend, quoi. Voilà.
Alors, on parle beaucoup de jeux de mots depuis le début. De façon générale, on en parle beaucoup quand on parle de vous, quand on écrit ou on parle de vous. En fait, votre spectacle n'est pas que sur le jeu de mots. Vous commencez par un sketch qui est presque un sketch d'humour noir.
Ouais.
Il y a des moments où vous allez vers des choses plus poétiques, vers un comique plus social. Alors qu'à l'inverse, il est vrai que vous avez des sketchs qui reposent complètement sur le mot. C'était une volonté de patchwork ou vous êtes encore jeune, vous vous cherchez?
Oh non, pas du tout.
Ou les deux peut-être.
Mais je crois que se chercher n'est pas une affaire de jeunesse, mon cher. On se cherche tous et on est pluriel.
C'est pas faux.
Encore une fois, ce qui me guide, je suis pas en train de me dire il faut qu'il y en ait pour tout le monde dans ce spectacle. Ce qui me guide, c'est moi, ce qui me fait rire, ce qui nous fait rire à l'écriture avec Yvan, ce qui nous fait rire sur scène. Et puis après, ça passe l'épreuve du public, l'épreuve de la rampe. Et si ça continue de faire rire les spectateurs, alors on a gagné. C'est ça le principal.
Mmh. Et à l'inverse, c'est de la même façon que vous avez construit des sketchs qui reposent juste sur le jeu de mots, comme par exemple celui où vous associez un nom de métier et une ville, où vous faites des jeux de mots avec des actrices. Alors, je vais pas commencer à parler de Nathalie qui baille, de Laetitia qui a l'idée et de Laura qui se met en colère.
Oh, c'est très joli. On est en plein dedans, là.
Là, on est en plein dedans, oui. Qu'est-ce qui vous fait que vous mélangez ces styles ? Vous avez une volonté de mélanger des styles ?
Mais oui, mais parce qu'en fait, on est un mélange de styles. Je crois que ce serait hyper, hyper ennuyeux pour le spectateur de venir et de voir la même chose pendant une heure et quart. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'œuvre artistique pour laquelle c'est comme ça. L'œuvre d'un peintre, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toujours le même style. Le CD d'MC Solar, si vous l'écoutez, il y a un style différent sur chacune des chansons. Et on ne va pas lui dire, mais attendez, pourquoi il n'y a pas 12 fois Sonotone ? Non, mais pourquoi il n'y a pas 12 fois Sonotone sur votre CD ? Bah, il n'y a pas 12 fois Sonotone parce que ce que j'avais envie de dire sur le titre Sonotone, je l'ai dit sur le titre Sonotone et après il y avait d'autres choses. C'est exactement pareil pour mon spectacle.
Alors, je reviens aux interventions d'aujourd'hui. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt intéressantes, mais je voulais aller plus loin.
C'est génial, c'est son
plaisir. Et je sais que vous, les petits commerçants, vous avez des problématiques bien spécifiques que je vais essayer d'adresser ce soir. To address, je ne sais pas comment vous dites en français. Alors, un mot sur mon parcours. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je me suis intéressé, moi aussi, au financement des études des jeunes. J'avais un projet de crowdfunding et en creusant un peu, je me suis aperçu que 92% des étudiants qui n'avaient pas obtenu de prêt bancaire n'en avaient en fait pas demandé, n'en avaient pas besoin. Partant de ce constat, j'ai décidé de m'intéresser à autre chose. et je me suis intéressé à cette question des révolutions françaises. Alors qu'est-ce que c'est ? Les révolutions françaises, pour moi, ce sont d'abord les gens qui réfléchissent, hein, par opposition à ceux qui ne réfléchissent pas. Comme vous, j'ai la chance de faire partie de la première catégorie, et j'ai fait un constat, c'est que les gens qui n'ont pas d'idées, eh bien, il y en a beaucoup. Alors, je cherchais depuis longtemps un moyen de rassembler ces gens, et j'ai eu l'idée de créer une plateforme en open source. Rapidement, on s'est rendu compte que quand on met en relation des gens qui n'ont pas d'idées, eh bien, ils n'ont pas plus d'idées, mais ça les occupe.
Chris Esquer qui concluait, Chris Esquer qui concluait un TEDx, c'est pas un hasard, hein, tout ça est très travaillé si on le met maintenant. Alors lui a travaillé dans un cabinet de, un grand cabinet de conseil où vous avez fait une école de commerce avant, ouais. Vous avez commencé à écrire alors
j'ai
que
commencé à écrire pendant que j'étais en école de commerce, ouais.
Tout ce jeu là sur le langage managérial, ça vous amuse, ça vous...
Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors là, ça nous parle tellement, ça parle tellement de l'absurdité de notre monde, de cette novlangue du management, du marketing et de l'advertising. C'est ce que je faisais, moi. Je faisais de la pub et du marketing quand j'étais en école de commerce. Et justement, c'est en faisant ça que je me suis dit non, je vais faire rire les gens. C'est bien, c'est mieux. j'ai plus d'avenir là-dedans.
Justement, alors, on l'évoquait tout à l'heure, sous les apparences, votre spectacle,
mais on peut partir sur un pestacle. On peut faire ça aussi.
Votre spectacle est assez sombre. Sur notre époque, vous jouez avec les mots,
vous
débusquez toutes les absurdités du monde quand même.
Je débusque les absurdités du monde, ça n'a rien de sombre. C'est pas sombre. Alors écoutez, je peux vous laisser dire plein de choses. Non, c'est pas sombre, parce qu'en fait, c'est justement ce que j'ai envie de défendre dans ce spectacle, c'est une vision hyper positive du monde. Et c'est ce qui, moi, me manque aujourd'hui, et c'est ce qui me manquait quand j'allais voir des spectacles d'humour où c'est très noir et où ça fait du bien de rire noir. Mais j'avais besoin à un moment d'une bouffée d'oxygène. Et j'essaye de faire que ce spectacle soit ça. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens me disent le plus à la sortie et ce qui me touche infiniment. On me dit, ce spectacle, ça fait du bien.
Oui, mais il y a un fond de l'air qui n'est pas très joyeux non plus.
Le fond de l'air est frais.
Et vous l'écrivez en un mot, c'est
oui,
bien.
Oui, exactement.
Vous n'êtes pas très joyeux. Vous aimez votre époque. Vous êtes heureux aujourd'hui.
Moi, je suis très heureux aujourd'hui. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, on se les est posées pour la plupart avant. Et si j'étais malheureux dans mon époque, ce serait vraiment con parce que je peux pas changer.
Vous êtes un peu comme Sampé finalement. Vous chassez. On parlait tout à l'heure de Sampé.
Ouais, ouais.
Vous chassez les ridicules, mais au fond, vous avez beaucoup de tendresse pour l'humanité que vous croisez tous les jours.
Mais d'ailleurs, mon travail en tant que chroniqueur sur Europe 1, c'est des lettres. Ça s'appelle lettre ou ne pas lettre, et tous les vendredis matins j'écris une nouvelle lettre à quelqu'un et je termine toujours par tendrement, parce que pour moi c'est une manière de vivre la tendresse. Bien sûr je dénonce le ridicule, ça veut pas dire que je déteste tout le monde. Bien sûr je dénonce l'absurde du monde, ça veut pas dire que je le vois de manière très noire. Ça veut juste dire que en mettant le doigt sur l'absurdité du monde, sur ses incohérences, sur ses folies, et ben ça soigne un peu plus. J'ai l'impression.
Dans votre conclusion de votre spectacle, et nous aussi on va conclure par ça, vous dites que le point d'interrogation est le meilleur ami de l'homme.
Ouais. Ah bah oui, c'est sûr, mais ça fait un bien fou la question. Ce qui est important, enfin moi je crois que ce qui est important c'est pas vraiment la réponse, c'est la question. C'est Edgar Cayce qui dit les questions sont les rêves de demain.
Voilà. C'est joli ça.
Ouais.
Je connais pas Edgar Cayce, c'est qui ?
Mais moi non plus, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé un jour cette citation. Et je trouve que c'est toujours très chic de finir une interview avec une belle citation.
Vous pouvez nous la redonner parce qu'elle est tellement belle.
Ouais, les questions sont les rêves sont les questions de demain.
Merci beaucoup, Michael Hirsch, d'être venu. Vous venez d'écouter La Relève, une émission réalisée aujourd'hui par Zoé. Elle était préparée et présentée par Christophe. Je rappelle donc que votre spectacle se joue actuellement à la Comédie des Champs-Élysées du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche. À 16h par ailleurs, on peut vous retrouver tous les vendredis matin aux alentours de 9h20 sur Europe 1. On vous laisse aller, on laisse nos auditeurs aller voir ailleurs. Quant à nous, vous pouvez tout retrouver maintenant, désormais car on l'a enfin fait, dans les podcasts qui sont sur le site internet de La Relève. Et on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Et ce soir, vous avez rendez-vous à 19h pour la matinale. Je crois qu'il y a quelque chose d'absurde derrière tout ça.
One day in May, it's suddenly happened.